voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dion rencontre Éric Cantona. Premier entretien.
À 48 ans, il continue de jouer, se faire plaisir et donner de la voix. Mais c'est l'image qui aujourd'hui le tient, le cinéma, la photo, la peinture, l'art au sens le plus énigmatique du terme. Quand il faut creuser le mystère, affronter le monde et ses contradictions. L'art quand il faut voir grand. Le foot, il est là, mais en fond de décor, juste parce qu'il est impossible pour le commun des mortels d'oublier ce génie du ballon écorché et indomptable que les supporters anglais ont, en 2001, élu le meilleur joueur du siècle. Rien que ça. Mais peut-on dire aujourd'hui, Éric Cantona, que cette fièvre rebelle qui gît en vous caractérise encore votre personnage, votre humanité?
Moi, je sais pas trop, quoi. Déjà, le mot rebelle, je trouve qu'il a perdu de son sens, quoi.
Vous ne sentez plus rebelle?
Enfin, en tous les cas, j'ai pas envie, moi, de dire que je suis... Non, je pense que je suis plus ou moins libre, pas totalement libre, quoi. Hein, ce serait... Non, mais j'essaie d'être le plus libre possible, quoi, en tous les cas. Essayer de... Pour moi, la vraie liberté, de toute façon, c'est le... La vraie liberté serait d'être ermite, quoi. Voilà. Parce que rebelle, être en rébellion contre quelque chose, c'est vouloir créer notre monde, quoi.
C'est vouloir se battre aussi.
Non, c'est vouloir se battre contre un monde qu'on n'accepte pas, et puis en idéalisant un monde qu'on imagine, quoi. Voilà, donc...
Mais ermite,
non, non, moi je serais plus... Je trouve que la vraie liberté, le vrai courage, c'est justement de pas être en rébellion contre quoi que ce soit, c'est de se retirer. De se retirer, pas se foutre en l'air, quoi, non, se retirer et vivre en totale harmonie avec la... Avec la nature, vivre de la nature, et en harmonie avec la nature, sentir l'énergie de la nature, quoi.
La nature et les hommes.
La nature et les... Mais en tous les cas, le rapport que j'essaie d'avoir avec les hommes sont des rapports très, 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 très charnels, quoi. Fait une énergie, fait quelque chose, les choses doivent passer. Un lieu aussi. On entre, il se passe quelque chose ou pas. Pour chacun, c'est différent. Hein. Mais d'avoir une vraie relation avec les gens, une vraie relation avec les lieux. Voilà, donc ça, c'est de ma vie de tous les jours ici, quoi. Mais le vrai courage, autrement, je pense sincèrement qu'il est de se retrouver face à soi-même et avoir le courage de se retrouver face à soi-même et de vivre en totale harmonie avec la nature et vivre de la nature. Parce que la nature nous propose tout. La nature, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu, des fois, du mal avec... Enfin, on lit des trucs, ce qui se passe avec des gens qui sont retirés, qui vivent comme on vivait il y a des siècles, ou comme certaines tribus vivaient il y a des siècles. Et ces gens-là continuent de vivre, et nous, on arrive là, puis à donner des leçons, quoi. Je trouve que le monde comme il est fait aujourd'hui, quoi. Enfin, il me fait pas rêver, quoi. Je crois pas qu'il fasse rêver grand monde, d'ailleurs. Là, on parle d'ondes, mais d'ondes informatiques, d'ondes... C'est d'ondes négatives, quoi. Je parle des vraies relations, de ce qui est... Les peintures de Lucian Freud, par exemple, quand on voit les personnages, quoi, il y a une aura autour, quoi. Il y a une aura que l'œil ne peut pas percevoir, mais qu'on peut ressentir. Et qu'on ressent. Et qu'on ressent quand on voit certaines personnes, et qu'on ressent quand on est dans un lieu... Et nous, là, aujourd'hui, si on pouvait visualiser toutes ces zones qui nous traversent l'esprit, le corps, chaque seconde, chaque minute, où qu'on aille, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus que 2% de zones, alors que c'est comme... Il y a encore 2% de zones à conquérir, quoi. Alors que c'est... Je trouve
alors
que c'est...
qu'il faut les protéger.
Alors qu'il devrait y avoir un minimum de, il devrait y avoir un minimum de zones à protéger, quoi. Voilà. Je parle de ça pour faire le...
La correspondance avec
l'être, ce qu'on peut ressentir en étant directement en contact avec l'être et la nature, et ce qu'on nous propose, et nous, à vouloir quotidiennement changer le monde, quoi. Changer ces gens qui sont complètement en harmonie avec la nature, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai pas ce courage-là. J'ai pas ce courage-là de vivre comme ça, évidemment. Mais c'est ce courage-là que j'aimerais avoir. Donc la vraie rébellion, pour moi, c'est pas se rebeller contre le monde, c'est se rebeller contre soi-même et avoir le courage de vivre en dehors du monde, hein, sans vouloir le changer, quoi. Il y a un conteur qui racontait un truc l'autre fois qui était magnifique, quoi. C'est un mec qui est dans un village, quoi, qui raconte une histoire, il n'y a personne qui l'écoute. Une histoire qui, voilà, il voudrait changer le monde, le mec. Et puis on repasse la semaine d'après, et puis il n'y a toujours personne qui l'écoute, mais il continue de parler. Et puis on repasse des années après, et il n'y a toujours personne qui l'écoute, et il continue de parler, il continue de vouloir changer le monde, quoi. Et puis un jour, des années après, il y a un mec qui arrive avec son enfant, et le petit lui dit, mais ce mec-là, il parle, là, comme ça, il est fou, il n'y a personne qui l'écoute, hein, et il continue de parler. Alors le mec, il va le voir, il lui dit, mais vous savez, moi je viens avec mon enfant, et aujourd'hui, il vient de me dire ça, quoi. Et moi, je passais déjà, il y a des années ici, et puis je vous voyais parler, et puis il n'y a personne qui vous écoute, quoi. Et le mec, il dit, oui, mais je continue de parler pour pas que le monde me change. Et je trouve ça très fort, quoi.
Cette tentation de l'extrême solitude, Éric Cantona, c'est quelque chose qui vous traverse encore l'esprit à 48 ans ?
Ouais. Ouais, ouais. Ben, j'ai pris ça d'une personne que j'ai jamais connue. Ma grand-mère, qui était une conteuse extraordinaire, qui nous a toujours parlé d'un oncle de l'Ardèche qui vivait en ermite, quoi. Alors lui, je l'ai connu, voilà, à travers les mots de ma grand-mère. Et ma mère, elle, par contre, vit comme ça.
Aujourd'hui encore.
Ma mère, elle vit comme ça. Ma mère, très rarement, elle sort. Très, très rarement. Il faut faire un travail pour la sortir. Parce qu'on a envie de la voir aussi, quoi. On a envie de la voir avec nous, quoi. Mais très naturellement, elle vous parle. Parle aux animaux, elle parle aux fleurs. Elle sait quand une fleur va éclore. Elle sait quand ça va finir. Et on peut dire qu'elle est illuminée, quoi. Mais j'ai toujours aimé les gens comme ça, moi. Voilà. Donc j'ai pris beaucoup ça de ma mère, et puis une autre personne dans un village où on allait dans les Alpes, que tout le monde traitait de folle. Et c'est vrai que des fois, elle avait un discours incohérent, ou qui peut paraître incohérent, quoi. Mais c'est toujours là-dedans que je trouve mon bonheur, moi. C'est dans des... Pas forcément des grands, c'est pas forcément des auteurs, c'est pas forcément. C'est des gens dans un village comme ça qu'on dit le fou du village, quoi. Hein, le fou du village. Alors qu'est-ce qu'il a à me raconter, le fou du village ? Ça, c'est incohérent ce qu'il dit, mais c'est incohérent par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qu'on. Voilà, un chapeau, on appelle un chapeau, on pourrait l'appeler. Voilà, c'est le mot qu'on a mis aux choses. Et c'est des gens qui partent là-dedans. Voilà.
Pour vous, les fous sont des poètes ?
Bon, après, d'abord, qui est fou, par rapport à quoi, ça, j'en sais rien. Mais, par exemple, il y a... Je ne suis pas un mec qui lit non plus. Et j'ai pas lu énormément de choses non plus, quoi. Mais par contre, ce que j'ai lu, et lu plusieurs fois, quoi, c'est le suicide de la société. Van Gogh, le suicide de la société d'Antonin Artaud, quoi. Voilà. Et ça me parle, quoi. Et ça me parle. Qui est fou, et je trouve que c'est facile. C'est facile de dire que quelqu'un est parano, c'est facile de dire que quelqu'un est fou, c'est facile de dire que quelqu'un est incohérent. Par contre, finalement, la vraie folie, c'est. Enfin, la vraie sagesse, la vraie. Le pacifique, quoi. Le pacifique. Les grandes démocraties sont des gens qui donnent des leçons, quoi. Mais souvent, on s'aperçoit que les grandes démocraties, en fait, sont des gens qui sont... C'est la démocratie à l'intérieur et le dictateur à l'extérieur, quoi. Vous voyez ? Donc, je me méfie beaucoup, en tous les cas, des infos qu'on reçoit. Je me méfie beaucoup de tout, en fait. De comment on a décrit l'histoire, comment on a décidé de nous raconter l'histoire. L'histoire, elle est racontée par les vainqueurs, quoi. Donc ça, c'est... Voilà. Donc je me méfie beaucoup de ça.
Si on revient, Éric Cantona, un petit peu en arrière quand même, du côté des Cailloles à Marseille, lorsque vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous reste de souvenir, qu'est-ce qui vous reste de marquant, de fort, quand vous étiez enfant, disons à 6 ans, pour ne pas remonter beaucoup plus loin, qu'est-ce qui vous reste de fort dans cette cité qui était un gros village, les Cailloles, c'est une époque où à la fois... l'idée du village indépendant était terminée. On y voyait se construire les premières HLM. Et vous avez vécu dans cette mutation urbaine en plein dedans. En 66, vous êtes né. 6 ans après, dans les années 70, ça y est, c'est une ville qui surgit. De quoi on se souvient quand on a vécu cette mutation et qu'on est enfant?
Moi, je me rappelle comme ça a évolué, quoi. L'espace total, quoi. Moi, je l'ai pas connu. Je l'ai connu à travers les photos de quand j'étais bébé, quoi. Des photos qui sont prises dans les champs, on voit perte de vue, on voit comme ça l'espace, tout ça. Et puis petit à petit, ça s'est construit, mais c'est beau aussi, quoi. Mais moi, le souvenir que j'ai, c'est en fait, mes grands-parents, quand ils sont arrivés ici, c'est une grotte qu'ils ont pris. Ils ont pris un terrain. Mon grand-père était maçon, mes deux grands-pères étaient maçons. Mais mes grands-parents paternels sont arrivés au Cayole. Ils ont, en 55, 56, ils ont vécu dans une grotte. Une vraie grotte.
Une vraie grotte, c'est-à-dire
dans voilà, une vraie grotte. C'est-à-dire, on a des photos. Mon père, il est en 40, il avait 15 ans. Et ils ont commencé, ils ont vécu là-dedans, le froid de 55 ou 56. Donc, on voit, stalactites comme ça.
Sur les
avec
photos,
un rideau
ça.
Devant, quoi. Mm-hmm. Avec un poêle à bois où ils essayaient de se chauffer. Et ils ont construit comme ça cette grotte. Ils ont commencé à construire à rénover plus ou moins cette grotte. Et à partir de cette grotte, ils ont commencé à faire une maison. Voilà. Où ma grand-mère allait chercher en bas, très très loin, les sacs de ciment et monter les sacs de ciment. Et mon grand-père construisait ça. Moi, je les ai vus, ces photos. Ça, c'est pas des histoires qu'on nous a racontées. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai vu des photos. Mmh. Et en plus de ce qu'on nous a raconté, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est la chambrette. Ça s'appelle la chambrette, quoi. Et elle est toujours voûtée comme la grotte.
Elle existe,
quoi.
Toujours. Ça
elle existe toujours. C'est la chambrette de la maison de mes grands-parents. Et qui avait fait une toit-terrasse parce que, en prévision de surélever pour mes parents, quoi. Voilà. Et nous, on a grandi là-dedans, où pour construire une maison, c'était des années et des années et des années. C'est-à-dire qu'on mettait 10 ans pour construire un truc. La maison de mes parents, ça a duré 10 ans. Et nous, on a toujours participé à ça. C'est-à-dire qu'on a toujours... le mercredi, on n'allait pas à l'école le mercredi matin à l'époque, quoi. Si, avant d'aller jouer, il fallait qu'on porte... Parce que le sable était encore en bas, en plus de...
Il fallait prendre les seaux et les remonter.
On montait les seaux, et là, on le mettait dans le truc, à la poulie, de monter en haut sur le toit terrasse de la maison, quoi. Voilà. Et tant qu'on n'avait pas monté 10 seaux de sable, mes frères et moi, on est 3, donc ça faisait 30 seaux, ben on n'avait pas le droit d'aller jouer. Donc on a participé à ça, on a participé à la construction de la maison, on a participé, et on vivait comme une communauté, quoi. Voilà. Donc toute ma vie, ma vie, elle était construite là-dessus, quoi. Voilà. Après, donc ça a toujours été important, le groupe et la solidarité, quoi. Et on est arrivé ensemble en participant chacun à son niveau, puisque nous on était petits, quoi.
C'est votre grand-père ou c'est votre père Albert qui donnait le là de tout ça? Qui était le...
C'est ma grand-mère.
C'est la grand-mère.
Ouais, c'est ma grand-mère.
C'est la grand-mère.
Ouais, c'est ma grand-mère. C'était tous des personnalités, quoi. Mais c'est ma grand-mère qui avait cette énergie comme ça de... mon grand-père avait une forte personnalité aussi, mais ma grand-mère, c'est... voilà, il y en a, on discute, on parle, tiens, on va faire ça, tout ça, mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui prenne le truc, qui le trouve par les cornes, il dit, bon, ça, maintenant, on y va, quoi. Et c'était ma grand-mère. Voilà. Et mon père, qui travaillait, qui était infirmier en psychiatrie, la nuit, la journée, faisait le manœuvre aussi, pour mon grand-père. Voilà. Donc, on a grandi comme ça, quoi. La maison était faite comme ça, en y mettant tous notre patte. Et je me dis, moi, des fois, mais aujourd'hui, est-ce que moi, j'aurais le courage de faire ça, quoi? Et très sincèrement, j'aurais pas le courage de le faire. J'aurais pas le courage de faire ce qu'ils ont fait, quoi.
D'où vient cette force des parents, de votre génération, de la mienne d'ailleurs, qui avait cette espèce de foi dans le travail, dans les efforts, dans le respect de l'autre, dans le respect des anciens aussi. Comment vous l'expliquez encore aujourd'hui?
Je sais pas, mais c'était cette force de... Mais c'était surtout, on attaque quelque chose, quoi. Mais aujourd'hui, moi, je suis plus quelqu'un d'impulsif, quoi. Donc, oui, je vais avoir la force de faire quelque chose pendant un certain temps. Mais d'attaquer des chantiers comme cela, quoi, sans moyens, quoi.
Pas d'argent, seulement le temps.
Voilà, c'est juste le minimum pour prendre la marchandise, quoi. Et puis après, c'est du travail, quoi. On n'a pas l'argent pour payer qui que ce soit. On fait tout. Et se dire que ça va durer des années, 10 ans, 15 ans, quoi. On déconne l'énergie qu'il faut, quoi. C'est l'énergie. Incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que, encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et encore plus qu'il y a 30 ans, quoi. C'est oui, vite, tout de suite, quoi. Tout de suite, et on grandit avec ça, quoi. Si on a à attendre 3 secondes parce qu'il y a un truc qui capte pas, quoi, on comprend pas, quoi. Voilà. Et là, se dire que. C'est-à-dire que ça procure une certaine satisfaction aussi d'attaquer un chantier, quoi.
Il y a l'idée de construire,
mais
y a
cette satisfaction sur 10 ans, quoi. Sur 10 ans, un truc. C'est quand qu'on va finir, quoi. C'est quand qu'on va finir, et tous les jours il faut cette force, tous les jours il faut avancer.
Alors vous êtes le cadet d'une fratrie où l'aîné a 3 ans et demi, de plus je crois Jean-Marie.
3 ans et demi.
Et le cadet Joël, le dernier pardon Joël, suit derrière.
Ouais.
Et tous les trois à cette époque-là, vous étiez, j'allais dire, aux ordres des grands-parents, des parents, logés à la même enseigne.
On était, mais en fait je vous raconte ça pas pour dire, c'est juste que c'était extraordinaire quoi. On avait une chambre, nous, qui faisait, je dis, c'était 2 lits, 1 place, quoi, ce qui devait faire 70 cm, quoi. Et entre le lit et la fenêtre, il devait y avoir 30 cm. Entre les 2 lits, il y avait 30 cm. Et l'autre lit était collé à la cloison, quoi. Voilà, mon frère Jean-Marie, qui était l'aîné, dormait dans le lit seul. Et mon petit frère et moi, dans le lit, qui était contre le mur, où chacun a la tête, on se touchait les pieds, quoi.
La promiscuité.
Voilà, mais c'était jusqu'à l'âge de 10 ans, quoi. Mais c'était extraordinaire, quoi.
Pourquoi? Parce que vous racontiez dans la proximité des choses.
Parce qu'on connaissait que ça, quoi. On connaissait que ça et on était heureux là-dedans, quoi. Parce qu'en même temps, on a grandi avec certaines valeurs, la valeur du travail, la valeur et l'amour des nôtres autour. Et sans rien, on n'avait pas besoin de grand chose, quoi. Des fois, je vois des trucs, même à Marseille, il y a des petites calanques, des trucs. Il suffit d'y aller, ça coûte rien d'y aller, quoi. Et s'acheter un bout de pain et un bout de fromage, quoi. Et passer l'après-midi avec ses enfants, là, quoi. Ça coûte absolument rien. C'est pas un hôtel 5 étoiles, c'est pas le McDonald's, ça coûte moins cher qu'un McDonald's, quoi. Et on peut passer la journée entière avec ses enfants. Eh ben, nous, c'était comme ça qu'on vivait, quoi. C'était des petits moments d'extase, quoi. Quand on prenait la voiture et qu'on était 7 dans la voiture et qu'on se serrait comme ça et que ma grand-mère avait préparé le truc avec ma mère, la glacière avec, et on sortait et on s'arrêtait. Tiens, cet endroit, il est magnifique. On va s'arrêter là, on va prendre un chemin et puis on prend. Et on sort tout et on mange là, comme ça, dans la nature, en pleine nature. Mais c'est le plus beau moment de ma vie. Après, j'ai fait des hôtels 5 étoiles, je peux voyager en machin, il n'y a pas de problème, quoi.
Mais vous n'oubliez pas ces moments-là.
Mais c'est pas que je les oublie pas, c'est que c'est des moments extraordinaires. Et que aujourd'hui, j'ai autre chose, mais c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Alors est-ce que je réussis? J'en sais rien, quoi. Mais je me dis que c'était tellement beau, quoi. Voilà. Après, nous, on n'avait rien d'autre. Et on ne pouvait rien avoir d'autre que ça. Aujourd'hui, les enfants, ils se disent, bah, tiens, on peut avoir peut-être... Donc, c'est pas la même chose. On voudrait qu'ils réagissent comme nous. On réagissait même pas, nous, quand on était gamin. La vie était comme ça.
Il n'y avait pas d'alternative.
Je pense que c'est le vrai bonheur, il est là. Voilà.
Est-ce que vous êtes nostalgique quand vous dites ça?
Non, je suis pas nostalgique, mais en fait je le dis parce que je le dis pour parler de moi, mais je le dis surtout, c'est parce que c'est comme s'il fallait absolument faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui pour être heureux, quoi. Voilà. Et je trouve que justement ce que je disais, on peut continuer de le faire aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, je le fais encore moi. Mais je me dis qu'il y a plein de gens aussi qui comme moi qui me parlent, et qui passe à côté de ça, parce que... Alors après, j'en sais rien, quoi. Je sais pas si c'est ce qu'on nous vend toute la journée qui fait que... Mais il y a des petits trucs comme ça, pas loin de chez nous, quoi. Alors si possible, un peu d'amour entre les parents, et puis... Après, c'est difficile parce que c'est parce qu'il y a aussi la pression de l'extérieur, la pression du. C'est pas facile parce que ouais. C'est... Est-ce que mes parents, ils avaient aussi le souci de la facture, quoi. Ils avaient aussi ce souci-là. Ils avaient aussi le souci de finir à la fin de mois. Voilà.
Quel regard portiez-vous sur votre père ou votre grand-père maçon qui travaillait tout le temps? Est-ce que vous les admiriez ou au contraire vous les plaigniez?
Non, je les plaignais pas. Non, c'était comme je vous dis, on se posait pas de questions. C'était le monde qui nous entourait, quoi. Voilà, c'était comme ça. C'est comme ça et c'était magnifique. Par contre, aujourd'hui, je me dis, mais comment ils ont pu faire ça? Mais sans les plaindre, quoi. Je suis admiratif, quoi. Parce que moi, j'aurais pas le courage de faire ça aujourd'hui. Parce qu'on a grandi dans un truc, on a pas ce truc. Non. J'aurais cette force-là pendant une semaine, quoi. Pendant un mois, pendant un machin. Mais me dire que ça va durer 10 ans, que ça va durer 15 ans, quoi. 10 ans, 15 ans, avec le même objectif, quoi. Et tu vas au bout, quoi. C'est... Bon, après, nous, on est des générations, c'est des générations aussi qui ont connu des guerres, qui ont connu des... Voilà, c'est autre chose. Hein.
Alors, votre père, Albert, était certes infirmier, mais il était aussi, ou en tout cas, il s'intéressait beaucoup à la peinture. En même temps, quand vous aviez 6 ans, c'était pas forcément cela qui vous intéressait, c'était plutôt le foot et la récompense de ses efforts, c'était peut-être d'aller sur un terrain où le retour de cette promiscuité dont vous parlez, c'est peut-être de trouver un terrain libre et de pouvoir taper dans un ballon. Ces moments-là, cette charnière-là, c'est d'aller sur un terrain de foot, d'aller taper dans un ballon. Qu'est-ce qui vous en reste là, de ces moments-là?
Il nous prenait, il nous amenait voir des expos aussi, mon père. Voilà. Bon, on n'allait pas au Louvre, hein. C'était à Marseille, on allait voir les galeries marseillaises avec les peintres provençaux, Mambrogiani.
Cézanne.
On allait sur le, voilà, voir la Sainte-Victoire, Cézanne. Pas les peintures de Cézanne, parce que, non. Mais c'était Chabot à l'époque, c'était Ambrogiani, Pierre Ambrogiani, c'était les peintres provençaux, voilà, des super beaux peintres, quoi. Voilà, et puis on allait, puis mon père y peignait, et puis on était avec lui, l'odeur de l'essence térébenthine, l'odeur de la peinture à huile, l'odeur de tout ça, je l'ai, c'est voilà. C'est, et on a grandi avec ça aussi, et on a grandi aussi avec le sens de l'observation du monde, de la beauté, du monde, la beauté d'une lumière, la beauté d'un paysage, la beauté de... Voilà.
Ça, vous le devez, votre sens de l'observation actuelle, vous le devez à vos parents?
Je pense, ouais, bien sûr. Bah, en tous les cas, ils nous ont servi ce qu'il fallait pour qu'après on continue seul à naviguer, quoi. Mais on a été assez armés, quoi. Ouais, je crois. Et, mais le ballon était présent aussi.
Le ballon, la peinture.
C'était le football et la peinture, quoi. Voilà, c'était le football et la peinture, et puis des moments de vie, quoi. Voilà. Mais le football était présent, pas simplement parce qu'il y avait un stade au milieu de toutes ces cités, le stade des Cayolles, quoi, qui existe encore aujourd'hui.
Qui était un très bon club de foot finalement. Par rapport à... C'était dans le département, c'était un bon club.
C'était un super club formateur, un super club amateur, quoi. C'est important, les clubs amateurs, hein. Très, très important. C'est important, on parle de ceux qui réussissent, mais le football amateur, le travail qu'ils font, même pour ceux qui un jour réussiront pas d'être passés par le football, je trouve que c'est important, quoi. Voilà. Mais le temps qu'on passe à l'entraînement, des fois je vois, mais je parle avec des petits, quoi. Parce que l'entraînement, c'est quoi? Enfin, aujourd'hui, ça s'entraîne deux fois par semaine. Nous, à l'époque, on s'entraînait le mercredi, quoi. C'était deux heures par semaine, et puis on jouait le match le week-end, ou samedi ou dimanche, selon l'âge, quoi. Mais le reste du temps, on a été avec un ballon toute la journée, quoi. À l'école, à la cantine, on était avec le ballon, à la récréation, on était avec le ballon, à la maison, on était avec le ballon. Après la douche, c'était avec le ballon, d'une porte à une autre. Avec les copains en bas, c'était le ballon, c'était tout le temps le ballon tout le temps. Et des gamins, on n'en voit plus trop jouer de façon un peu anarchique comme ça, quoi. Voilà, comme si tout devait être hyper structuré.
Parce qu'il y a plus d'espace.
Non, je pense qu'il y en a encore des espaces. Hein. Il y en a parce que non, il y en a des espaces. Il y en a, puis il y en a qui continuent de jouer, quoi. Mais je trouve beaucoup moins qu'avant, quoi. Mais en tous les cas, le ballon, c'était ça. C'était pas simplement le club. Le club, c'était très, très important. Mais après, c'était...
Entre taper le ballon dans la rue, au déboté, comme vous faisiez avec vos copains, et l'entraînement du mercredi, qu'est-ce qui faisait la différence? C'était l'éducateur qui venait donner des règles, qui venait indiquer ce qu'il fallait faire. C'était la prise de conscience qu'il existe une équipe et d'autres pour jouer, qu'on ne peut pas gagner seul.
Ouais, non, ça c'était ça c'est ce qu'on apprenait au club avec les éducateurs du club. On apprenait la technique, comment contrôler un ballon, comment contrôler un mouvement, comment faire une passe du palat du pied, comment faire une passe du coup de pied, comment on fait un centre, comment on fait une reprise de volée, les gestes techniques comme ça. Mais après, c'est comme si vous allez avec un prof de musique et puis vous contentez de l'heure que vous passez avec le prof de musique. Et toute la semaine, il faut répéter seul, quoi. Voilà, et nous, donc, on répétait tout le temps. On répétait ce qu'on nous apprenait au club, mais on inventait des choses. Et puis voilà, on s'est inventé notre football, on s'est inventé une finale de coupe,
Vous aviez l'imagination féconde, Eric Cantona, quand vous étiez au Cayol, sur un terrain de foot? Vous représentiez vraiment en finale de Coupe d'Europe, en Coupe du Monde
Il n'y a pas beaucoup de matchs à la télé à l'époque. Il y avait très peu de matchs. Mais par exemple, moi je me rappelle très bien d'une finale de coupe Marseille-Bastia. 73 peut-être, quelque chose comme ça. Ou après le match, on était tous les joueurs de l'OM. Quoi. On se refaisait ce match-là. On se prenait tous pour...
On s'identifiait au plus grand.
On s'identifiait au plus grand. Moi, j'ai grandi avec l'équipe de Hollande et l'Ajax aussi, beaucoup.
Johan Cruyff.
Avec Johan Cruyff, oui. Voilà, d'ailleurs, je crois que Johan Cruyff, c'est la personne dans le football qui a apporté... Je crois que c'est la personne qui a apporté le plus au football. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur ensuite. Quoi. C'est-à-dire qu'il a participé à deux révolutions. La première en tant que joueur avec l'Ajax dans les années 70 et la deuxième en tant qu'entraîneur avec Barcelone. Et aujourd'hui, les jeunes Barcelonais sont tous des enfants de Cruyff. Ouais. Voilà, Guardiola, c'est tout l'héritage de Johan Cruyff, Barcelone. Dans un club où on n'achetait que des stars à l'époque. C'est déjà compliqué de réussir dans un club comme ça. Mais de réussir dans un club comme ça, à y apporter vraiment un travail de fond qui dure, il faut vraiment faire ses preuves. Quoi. Ouais. Parce que Barcelone, c'était le club riche qui achetait des stars. Quoi. Où il y avait très peu de formation. Et puis Barcelone, c'est devenu un club formateur. Quoi. Qui a aussi les moyens de s'acheter des grands joueurs. Voilà. Et tout ça, c'est l'héritage de Cruyff. Donc je pense que c'est la personne qui a le plus apporté au football et dans la beauté du jeu. C'est-à-dire l'Ajax des années 70, la Hollande des années 70 et Barcelone des années 90, quand il est arrivé en tant qu'entraîneur jusqu'à aujourd'hui, c'est la beauté du jeu. Quoi.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Eric Cantona. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Élise Leu, réalisation Luc-Jean Reynaud, coordination Sandrine Trémer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.